Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, ce sont désormais les géants du téléphone ou de l'électroménager qui se lancent sur le marché de la voiture électrique. Il faut dire que la croissance du secteur est spectaculaire. En Europe, il s'est vendu 1 200 000 voitures 100% électriques et 1 million d'hybrides rechargeables l'an dernier. Le boom de l'électrique qui signe aussi le chant du cygne du moteur thermique. En Allemagne, géant de l'automobile européenne, le passage au moteur électrique inquiète professionnels et responsables politiques. Jusqu'à un tiers des 613 000 emplois liés directement ou indirectement à la production de voitures à moteur thermique pourraient disparaître d'ici 2030. C'est un reportage de notre correspondant à Berlin, Julien Méchaussy.
Si certains responsables politiques ont encore du mal à prendre le train en marche, les grands constructeurs allemands ont déjà commencé à tourner le dos au moteur thermique. Comme ici chez Volkswagen sur le site plus que centenaire de Zwickau dans l'est du pays. Passé l'année dernière à 100% à l'électrique à coût de milliards d'investissements, l'usine forme de jeunes ouvriers façonnés au départ pour le moteur thermique à l'image de Benjamin Liebold.
La transition vers la mobilité électrique change tout. On doit se familiariser avec de nouvelles technologies, oublier le moteur thermique et maîtriser le moteur électrique. Le réservoir pour le carburant n'est plus là. Les composants électroniques jouent un rôle central. Je n'ai pas le choix. Même en étant encore jeune, je devais me reconvertir. Et ça m'ouvre des perspectives. Nous vivons une transformation technologique permanente. Il faut tout faire pour ne pas rester à quai. C'est très important.
Direction la chaîne de montage avec Holger Hollmann, ingénieur qui a fait toute sa carrière chez Volkswagen.
Bien sûr qu'il y a une certaine nostalgie du moteur thermique. Ce moteur nous a toujours accompagnés. Pour moi, c'est même une passion que j'ai depuis l'enfance et que j'ai encore aujourd'hui. La révolution de l'électrique bouleverse nos habitudes. Il y a beaucoup de nouveaux défis à relever au sein de notre usine. Si les véhicules fonctionnent à peu près de la même manière, la propulsion est par exemple complètement différente. C'est un grand saut dans une ère nouvelle, avec des incertitudes, mais aussi de nouvelles chances.
Longtemps raillés pour leur manque de vision et leur attachement au moteur thermique, les géants allemands ont pour la plupart annoncé l'abandon de ces derniers dans les années à venir.
Nous pouvons voir devant nous le châssis complet d'une voiture électrique. Si le bloc moteur a disparu, nous avons encore l'essieu arrière au sein duquel sera inséré le moteur électrique et l'essieu avant avec des amortisseurs. Ce qui change surtout, c'est l'absence en milieu de circuit de gaz d'échappement qui est remplacé par un grand bloc de batterie. Avec ce montage plus simple que pour une voiture conventionnelle, nous avons besoin de moins de personnel. Chez nous, par exemple, ce bloc de batterie est monté de manière entièrement automatisée.
Bien plus simple dans sa conception, le moteur électrique menacerait ainsi 200 000 emplois du secteur, chez les constructeurs, mais aussi les sous-traitants. Des PME au cœur de la production allemande qui, pour certaines, risquent de ne pas survivre à ces bouleversements, selon Ferdinand Dudenhofer, l'un des experts automobiles le plus écouté d'Allemagne.
Aujourd'hui, cette révolution est arrivée chez les sous-traitants. Les grands fournisseurs comme Bosch ou Condi sont tous en train de fermer ou de restructurer leur département de moteurs thermiques. Et ils ont raison d'agir en ce sens. C'est une question de survie. À l'inverse, ils investissent massivement dans le domaine des logiciels. L'avenir est cependant bien plus sombre pour les petits sous-traitants, les PME qui misent encore sur des systèmes de gaz d'échappement ou d'injection de carburant sont déjà condamnés.
Ferdinand Dudenhofer parle de mauvaise gestion pour ces PME et voit un potentiel de création d'emplois bien plus important que les destructions entraînées par l'électrique. Dans les logiciels, la chimie, la construction de batteries, l'économiste souligne également que l'étude qui évoque une disparition massive d'emplois a été commandée par la Fédération de l'automobile allemande. Le but, gagner du temps et mettre la pression sur le gouvernement pour obtenir des aides, une stratégie en forme d'impasse aux yeux de Ferdinand Dudenhofer.
Les constructeurs et les fournisseurs qui se disent « le moteur thermique a toujours existé et existera encore à l'avenir » n'ont aucune chance. Ces entreprises sont à mes yeux mal dirigées. Si elles sont incapables de prendre conscience de tous ces bouleversements, elles sont appelées à disparaître et des emplois avec elles. Sans course à l'innovation ni adaptation aux nouvelles technologies, vous ne pouvez pas survivre dans une économie moderne.
Et à peine la révolution de l'électrique lancée, les constructeurs allemands se mettent déjà en rang dans le sillage d'Elon Musk avec Tesla pour une autre révolution, celle de la voiture autonome.
Pour réussir la révolution du numérique et construire des moteurs électriques ou des téléphones portables, il faut des terres rares. C'est devenu un véritable enjeu géostratégique et écologique. Guillaume Pitron, auteur de L'Enfer numérique, voyage au bout d'un like, publié aux éditions Les Liens qui libèrent.
L'Europe, d'abord, ne dispose pas des métaux nécessaires pour sa transition numérique. Elle a toujours plus besoin de lithium, de cobalt, de terres rares pour fabriquer des téléphones portables, parce que ces trois métaux se trouvent dans le téléphone portable. Et en même temps, elle est obligée d'aller les chercher ailleurs. Donc déjà, il y a un problème de souveraineté minérale et de souveraineté de nos approvisionnements. Et tant que nous n'aurons pas ces métaux, nous n'aurons pas non plus l'industrie des téléphones que nous ne produirons pas. L'un et l'autre sont souvent liés. Il faut sécuriser l'approvisionnement de la matière pour ensuite pouvoir fabriquer le produit avec la matière à l'intérieur. L'Europe, par ailleurs, a un immense sujet qui lui fait face, comme vous le savez, c'est celui de la souveraineté des données. Est-ce que l'Europe conserve pour elle-même les données qui sont l'information produite par ses propres citoyens, ou est-ce que, telle une vassale numérique des États-Unis et demain de la Chine, qui fait arriver ses câbles bientôt à Marseille, ses câbles numériques arrivent à Marseille en 2022, laisse-t-elle ces données partir? Et donc la question de relocaliser la production de données et de rapprocher la donnée du consommateur, c'est un enjeu de souveraineté numérique et c'est, figurez-vous, aussi un enjeu écologique. Parce que le transport de données, ça a un impact écologique. Or, si je réduis la distance entre le producteur de données et l'endroit où sa donnée est consommée, alors d'abord je réduis la latence, c'est-à-dire le temps que j'attends à télécharger ma page, mais également, il semblerait, il n'y a pas de chiffre là-dessus, mais ça m'a été plusieurs fois dit par des experts, eh bien en fait, je limite potentiellement l'impact écologique du numérique. Donc souveraineté et écologie, j'ai conscience que je fais un lien dangereux, hein, mais souveraineté et écologie peuvent faire sens, peuvent aller de pair lorsque l'on parle de la question des données.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui, au niveau européen, des pays qui s'emparent de cette question ?
Les pays, en tout cas, qui comprennent le mieux la question de l'impact écologique du numérique, je dirais d'abord que c'est la Suède, qui très tôt dès les années 90 a mis en place des labels sur le numérique responsable. Je parlerai également de l'Allemagne et de la France, qui est plutôt en avance dans cette prise de conscience de ces enjeux-là.
Guillaume Pitron, auteur de L'Enfer numérique, voyage au bout d'un like, publié aux éditions Les Liens qui libèrent sur RFI. Hola, 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 name kommt ganz hola, bei wo tanzt das Vagabola. Dans la course aux terres rares au cœur de la transition énergétique, le projet de mine de lithium de Rio Tinto en Serbie. La multinationale voudrait exploiter l'un des plus importants sites de lithium au monde, censé fournir à l'Europe les batteries pour 1 million de voitures électriques par an. C'est un reportage de notre correspondant Louis Seyer dans la vallée du Jadar.
Ici, il y a des fuites d'arsenic. Vous voyez là, tout autour ? Et ça fuit en permanence depuis 4 ans.
Marijana Petković se rend régulièrement dans les champs de maïs et de soja qui bordent la rivière Jadar, dans l'ouest de la Serbie. Depuis plusieurs années, la multinationale minière anglo-australienne Rio Tinto explore le sous-sol de la région. La vallée abriterait l'un des plus importants gisements de lithium au monde. Un projet à plusieurs milliards d'euros qui est soutenu par le gouvernement serbe, mais pas par les habitants comme Marijana.
Toutes les rivières de la région sont en danger. Le Jadar, la Drina, la Sava et le Danube, elles sont toutes en danger. Les gens de Rio Tinto ne peuvent pas nous garantir qu'il n'y aura aucune pollution. Ils reconnaissent qu'il y aura des pollutions, mais dans quelle mesure? Ils disent seulement qu'elle sera limitée. Mais quelles sont les limites pour Rio Tinto? On a vu ce qu'ils ont fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Madagascar Ils ont tout détruit et tout empoisonné. On ne peut pas croire ce qu'ils disent et être manipulés comme des marionnettes.
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Madagascar ou encore Australie, les activités du géant minier suscitent souvent la controverse. L'an dernier, son PDG français a été poussé à la démission. Pour extraire toujours plus de fer, l'entreprise avait réduit en poussière un site sacré aborigène vieux de 46 000 ans. Dans la vallée serbe du Jadar, Dragan Karicic est maire du village où pourrait être construit l'usine de production de lithium.
On sait ce qu'a été l'attitude de la compagnie dans les autres pays. Elle a tout pollué, détruit, anéanti et tout retourné. Ils feront la même chose ici en Serbie et avec cette vallée. Que restera-t-il du village si les gens de Rio Tinto se mettent à extraire ici de la poussière et des explosions sonores? Il n'y a aucune garantie pour quoi que ce soit. Si la mine est ouverte, il n'y aura plus de vie dans les 100 km à la ronde.
Du côté de la multinationale, on assure mettre tout en œuvre pour limiter l'impact de la mine qui devrait fonctionner pendant 40 ans. Mais les habitants de la vallée s'inquiètent pour leurs ressources en eau et notamment pour le stockage des quelques 57 millions de tonnes de déchets que prévoit le projet. Zlatko Kokanovic est paysan. Il est aussi le président du collectif « Ne donnons pas le Jadar ».
Notre vallée du Jadar est l'une des vallées les plus fertiles de Serbie. Cette année, par exemple, a été une année sèche. Il n'a pas plu pendant 2 mois et demi. Et pourtant, le maïs est mûr comme il l'est toujours dans les bonnes années. Si la mine se construit, moi, comme fermier, je me retrouverai littéralement sans aucun revenu pour vivre, sans terre pour travailler. Donc je perdrai tout mon capital. Je n'aurai plus qu'à quitter la Serbie et à changer mon nom, mon prénom et ma religion, tout. S'ils font cette mine, c'est que l'État n'existe pas ici.
Alors que l'Union européenne entame sa transition vers le tout électrique, le président serbe Aleksandar Vučić voit dans cette mine géante une opportunité économique. Il espère faire de la Serbie un leader sur le marché européen des batteries électriques. Une vision que ne partage pas Miroslav Mijatović de la coalition anticorruption PACTE.
Pour nous, que ce soit Rio Tinto ou des entreprises chinoises, toutes les entreprises qui viennent en Serbie le font parce qu'elles bénéficient de gros avantages, parce qu'elles n'ont pas à y respecter les mêmes normes environnementales qu'ailleurs. Donc le processus de production leur est beaucoup moins coûteux que dans l'Union européenne. Et nous, nous n'avons rien à y gagner. Rien que pour son fonctionnement, Rio Tinto a un besoin d'électricité quotidien qui est équivalent à celui d'une ville de 35 000 habitants, comme Loznica à côté. Et cette électricité, nous la produisons avec du charbon. Donc, nous nous retrouverons avec un environnement pollué et des millions de tonnes de déchets au bord de nos rivières.
Et face à l'opposition d'une partie de la population, le projet de mine a été suspendu le temps de la campagne électorale avant les élections du mois d'avril en Serbie. Les Balkans poursuivent leur déclin miné par une émigration massive. Parmi les principales raisons de cette émigration, une croissance économique en berne et un manque d'investissement. Mais il y a également derrière cela les tensions politiques et sécuritaires dans la région. Lola a 43 ans, elle vivait en Serbie, mais il y a 7 ans, elle a décidé avec son mari et ses deux jeunes enfants de partir vivre en Allemagne. Au-delà de l'aspect purement économique, c'est l'incertitude politique et sociale qui l'a poussée à franchir le pas. Elle estime que la situation s'est détériorée dans tous les Balkans. Lola est au micro de Laurent Rouy.
Nous sommes partis il y a quelque temps déjà, mais on voit bien que la situation ne fait qu'empirer sans cesse et de plus en plus de gens pensent à quitter le pays. Pour la plupart, la raison est économique, mais le cœur du problème, en fait, c'est la situation politique. D'une certaine façon, les guerres qui ont suivi la dislocation de la Yougoslavie ne sont pas terminées. Personne n'a reconnu ce qui s'était réellement passé. De nouvelles disputes apparaissent en permanence. Dans tous les pays issus de l'éclatement yougoslave, c'est le chaos. Et ça se ressent au quotidien, dans toutes sortes de situations. Le niveau de vie baisse, les gens ouvrent leur frigidaire et il est vide. On voit sa famille, ses amis qui vivent de plus en plus mal. La qualité de l'enseignement baisse aussi. Quand tu vois que le système ne fonctionne pas, tu perds tout simplement envie de vivre dans ton pays.
En un mot, Colonia, c'est l'eau de Cologne dont tout invité dans une maison turque se voit asperger les mains par le maître ou la maîtresse de maison, à peine assis dans un fauteuil. Son histoire en Turquie remonterait à la fin de l'Empire ottoman, à l'époque où l'Empire entretenait de bonnes relations avec la Prusse. L'eau de Cologne fut importée et adoptée comme parfum de la classe dirigeante avant d'être produite localement et de se diffuser dans les couches populaires. Récemment, elle semblait un peu tomber en désuétude. Avec la pandémie de coronavirus, elle est revenue dans tous les foyers à Nandlauer.
Dans la maison d'Aïchegül, à portée de vue et de main, traîne une grosse bouteille d'un liquide incolore, devenu indispensable dans la vie de cette trentenaire, la Colonia. La Colonia, c'est la traduction turque de l'eau de Cologne, qu'on utilise pour se rafraîchir et se nettoyer sommairement les mains. Celle d'Aïchegül sent le citron, un classique parmi les classiques. Pour la jeune femme, quelques gouttes de Colonia réveillent instantanément des souvenirs d'enfance.
Quand je pense à la Colonia, je pense à mes grands-mères. Dès qu'on arrivait chez l'une ou l'autre, le cérémonial commençait. D'abord, un tour de Colonia. Ma grand-mère renversa dans les mains de tous les invités. Puis elle servait le café turc.
Le cérémonial que décrit Aïchegül, tous les Turcs le connaissent. Il n'y a pas que dans les maisons, dans certains restaurants, certains taxis, pendant les longs voyages en car, chez les barbiers, en cadeau, lors des visites à l'hôpital, la Colonia passe de main en main, de génération en génération à travers la Turquie. Samim Agönül, historien et politologue, directeur des études turques à l'université de Strasbourg, remonte à la fin de l'Empire ottoman pour raconter l'origine de cet engouement. À l'époque du sultan Abdülhamid II, sous influence française, le produit est importé de Prusse, adopté par l'élite, avant d'être produit localement à partir de 1883, puis de se répandre dans les couches populaires.
Il y avait tout au long de l'Empire ottoman une sorte d'habitude, de tradition d'offrir des parfums, notamment l'eau de rose pour les invités lors des cérémonies, etc. Et Abdülhamid aussi veut imiter l'Occident et il commence à se faire importer ce produit-là sous le nom de eau admirable. Et c'est là où on a un entrepreneur, quelqu'un de visionnaire, un Ahmed Farouki, qui commence à produire l'eau admirable d'abord. Il l'appelle d'abord l'eau admirable, comme en France, et ensuite eau de Cologne, et finalement Colonia. Et Colonia devient, à la fin de l'Empire ottoman et au début de la République, le parfum préféré de tous les Turcs.
Dans son dictionnaire insolite de la Turquie, paru récemment aux éditions Cosmopol, Samim Agönül consacre une entrée à la Colonia. Il note que ces dernières décennies, l'eau de Cologne semblait tomber en désuétude auprès d'une partie des Turcs. La pandémie a tout changé.
Offrir l'eau de Cologne dans un foyer, dans une maison de l'élite turque n'existait plus. Quand on arrive dans les années 2000, c'est devenu synonyme d'un traditionnalisme, un symbole de cette Turquie orientale. Jusqu'à ce que, patatras, qu'une catastrophe nous tombe dessus et ça a repris ses lettres de noblesse. On se nettoie les mains avec la pandémie de Covid.
Dans son salon d'Istanbul, Aïchegül confirme. Depuis le début de l'épidémie, elle a toujours un flacon sur elle.
Pour être honnête, avant il n'y avait pas de Colonia chez moi. La tradition s'était perdue. Je voyais ça comme quelque chose que seules les familles turques traditionnelles continuaient d'utiliser. Quand l'épidémie est arrivée, j'ai tout de suite acheté de la Colonia. Parce que c'est un produit dans lequel j'ai confiance. Elle me paraît plus saine, plus légère que tous ces gels et sprays désinfectants. Mon amour pour la Colonia ne s'était donc pas éteint. Et maintenant, j'en ai tout le temps dans mon sac. J'achète de grosses bouteilles pour la maison, que je vide dans de petits sprays à glisser dans mon sac. C'est devenu un indispensable.
Dès le début de la pandémie, les fabricants turcs de Colonia, dont certaines maisons existent ici depuis plus d'un siècle, ont mis les bouchées doubles sur la production, développant même de nouveaux parfums, tandis que le gouvernement certifiait que les Colonia à plus de 70 degrés d'alcool étaient efficaces contre le virus. L'an dernier, les ventes dans le pays ont ainsi bondi de 182%. Les exportations aussi ont explosé, plus 208% par rapport à 2019. La Turquie a diffusé ses eaux de Cologne dans 116 pays, à commencer par l'Allemagne, où vit une importante communauté turque. Situation assez cocasse quand on se souvient que ce sont les Allemands qui avaient fait découvrir l'eau de Cologne aux Ottomans.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Le podcast de l'émission est disponible sur RFI.fr ou sur les plateformes d'écoute. À bientôt.